Bergeron qui est là avec moi également. Ou du moins, on a des parcelles de nous qui sont avec vous jusqu'à 22 heures.
Mais je sens que les fils vont se reconnecter pour la prochaine entrevue parce qu'on touche de quoi qui est un peu un fantasme de métier.
Ah ouais? T'aurais rêvé faire ça?
Oui, oui. Plus j'écoute des séries policières, de criminalité, plus je vois cette avenue-là comme une occasion manquée.
Ah ouais, OK.
Ouais, si t'étais, tantôt ton questionnement, là, si t'étais à la croisée des chemins à vouloir refaire ta carrière, j'irais probablement là-dedans.
Ah ouais, ouais. OK. Hein? Tu vois, j'aimerais ça, j'adore en regarder, tu sais. Puis on parle d'interrogatoire, en fait.
Oui.
D'interrogatoire, je me souviendrai toujours les images qu'on avait vues de Bissonnette, ouais. D'Alexandre Bissonnette. Son interrogatoire m'avait marqué pour plein de raisons, puis juste un interrogatoire en tant que tel, c'est captivant, c'est fascinant à regarder. Sauf que je sais pas comment ces gens-là font. Exemple, quand il y a un interrogatoire où ça met en vedette, entre guillemets, là,
ouais.
Des gens qui ont commis des crimes sur des enfants pour pas que le point parte tout seul. Puis moi, c'est probablement de même que je me serais disqualifié du processus, tu sais.
On a chacun ses points sensibles, mais justement, il y a un énorme travail, à mon sens, de désensibilisation.
Self-control aussi, probablement, à un certain moment donné. Puis effectivement, comme tout, je répète souvent que l'humain s'habitue à tout. Probablement qu'à longue d'en voir, tu sais, on avait vu à la télé c'était l'émission Police ou SPVQ, tu sais, qui à Télé-Québec, qui suivait le service de police. Non, c'est...
De la police de Québec-Québec même.
Ouais, exact, oui, exact, à Télé-Québec. Puis m'emmener nous montrer justement l'escouade qui regarde ou qui traque les pédos, tu sais, les cyber-pédos. Puis ces gens-là, ils regardent des images épouvantable à chaque jour. Fait que je peux pas croire que c'est du monde qui revienne briser à la maison chaque soir. Là. Il doit se faire une espèce d'accoutumance ou du moins une certaine tolérance à tout ça. Fait que bref, c'est toutes des affaires. On a bien beau jaser, là. On va prendre le temps quand même de faire l'entrevue. Ça démontre à quel point le sujet nous fascine puis nous intéresse. On va jaser avec Jacques Landry, qui est un professionnel de l'interrogatoire, du polygraphe aussi. Il y a au-dessus de 10 000 interrogatoires dans sa carrière, entre autres pour le compte de la SQ. On va aller le rejoindre. Il est au bout du fil. Monsieur Landry, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Blais.
Vous allez bien?
Très bien, vous?
Très, très bien. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous ce soir à cette heure-là. C'est hyper apprécié.
Ça fait plaisir.
Comment est-ce qu'on commence à faire des interrogatoires? Est-ce que c'est une job d'enquêteur qui dévie puis on se spécialise? Mais à la base, là, comment on étudie-tu pour devenir un interrogateur?
Oui, ça s'enseigne maintenant. Et puis, c'est pas tout le monde qui a les capacités ou les qualités requises pour devenir un bon interrogateur.
C'est quoi les qualités que ça prend?
Ben, ça prend quelqu'un, justement, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui est prêt à écouter à peu près les pires choses que l'être humain peut faire, et sans jugement, sans avoir à porter un jugement trop rapide,
okay.
Et être prêt à écouter. Puis une écoute, dans notre milieu d'interrogatoire, on dit, c'est être sensible aux besoins de l'autre. C'est pas écouter ce que vous voulez entendre, là. C'est d'écouter ce que lui a à vous dire. Et ça, c'est pas toujours évident.
C'est d'aller sortir le jus de la personne sans nécessairement vouloir lui faire dire... Vous rentrez pas d'une salle d'interrogatoire en ayant une mission de « je vais lui faire dire telle affaire ».
Absolument pas. Absolument pas. On s'en va là pour essayer de comprendre... Moi, je dis toujours qu'il y a trois phases. Comment était l'individu avant de poser le geste?
Oui.
Il a peut-être fonctionné très bien pendant 20, 25 ans, 30 ans, je sais pas. Comment il s'est senti émotionnellement au moment où il pose un geste? Puis après, est-ce qu'il prend sens de la réalité? Puisque est-ce qu'il y a des regrets, des remords? Ces trois phases-là sont extrêmement importantes parce que si on fait un focus juste sur qui a posé le geste, on ne prend pas le temps d'écouter l'autre. Là. Il y a une raison sous-jacente à ça. Mais il faut l'écouter. Avant tout, si on ne démontre pas qu'on est prêt à l'écouter, puis si on juge d'avance, puis comme vous disiez, vous êtes prête à lui donner un coup de poing en rentrant, vous n'irez pas très loin dans votre interrogatoire.
J'en doute pas, effectivement, ça je le reconnais. Quand il est question, justement, d'un interrogatoire, à quel point vous êtes briefé avant? Est-ce que c'est vous avez un dossier
ouais.
pour mettre au fait? Ça ressemble à quoi, la préparation à un interrogatoire?
La préparation, ça prend un plan. Et le plan vient de toutes les informations qu'on a pu aller chercher, soit de l'enquêteur, des scènes de crime ou des différentes expertises qui ont été faites, et ainsi que les antécédents de la personne s'il y en a. On se prépare, ça prend un plan. Puis le plan, bien, il se prépare au complet. Et habituellement, quand on rentre dans la salle, on connaît l'individu autant que soit son épouse ou ses parents, on le connaît de A à Z. C'est bien important. C'est bien important d'être bien préparé. C'est bien préparé.
Est-ce que ça veut dire qu'initialement, vous faites déjà comme une enquête et des entrevues avec des proches autour pour faire comme un début d'autopsie psychologique d'un ouais. profil de l'individu?
Tout à fait. Ça nous prend un profil. Faut comprendre à qui on a affaire. Puis dans quelles circonstances, comme je disais tantôt, dans quelles circonstances il est amené à être en contact avec la victime. Et pourquoi il est en contact avec lui, puis pourquoi ça a dégénéré. Il y a une raison à ça. Fait que c'est comprendre la raison. Le facteur de motivation, il est plus important que de savoir c'est qui. Notre système judiciaire est basé de savoir c'est qui. Mais dans le fond, le qui, c'est pas important. C'est de savoir pourquoi.
Pourquoi? Ben oui.
C'est pourquoi, bien plus important que le qui. Mais notre système n'est pas bâti là-dessus. Mais nos interrogatoires, maintenant, sont bâtis là-dessus.
Puis avez-vous le luxe de beaucoup vous préparer? Parce que, tu veux pas un interrogatoire, j'imagine que ça doit arriver des moments qui suivent une arrestation. Fait,
dans les premières heures.
Bien, c'est ça. Ouais. Vous ne devez pas avoir genre six semaines pour vous préparer.
Là. Non, bien, en tout et partout, on a 24 heures après l'arrestation avant qu'ils comparaissent devant le juge. Mais en 24 heures, on peut facilement mettre une couple d'heures pour se préparer, facilement. Mm-hmm. Moi, là, des histoires de rentrer dans la salle sans connaître l'individu, sans même savoir d'où il vient, où il reste, oubliez ça, là. Okay. Moi, ça me rentre pas dans ma tête. Ça c'est travailler comme il y a 25-30 ans. Ça marche pas.
OK. Puis est-ce que c'est vous qui faites votre propre recherche ou il y a quelqu'un qui vous acheminait les informations? Comment ça fonctionne?
Non, les enquêteurs, habituellement, les enquêteurs qui faisaient... qui sollicitaient mon expertise, ben, ils s'assoyaient avec moi puis ils me débriefaient sur ce qu'ils avaient obtenu comme renseignement. Et après, ben, j'étais en contact avec l'individu. Et puis, plus on a d'informations, plus on est en position de force pour aller chercher ce qu'on veut, soit le pourquoi, et surtout les raisons qui ont motivé le fameux geste qui a débordé, qui a créé un crime. C'est ça que ça prend. Une bonne écoute. Bonne écoute. Puis encore une fois, je répète, sans jugement. On n'est pas là pour les juger. Hein?
Okay. Le juge va s'en charger de ce
bout-là. C'est ça, c'est la
On a un système qui est supposé de s'en charger, même si des fois, on va dire que ça dérape, là, mais c'est pas notre système est fait pour s'en charger. C'est pas nous autres à juger ça. C'est pas nous autres.
Comment savoir que quelqu'un nous bullshit? Vous avez sûrement dû le vivre. Quelqu'un qui a essayé de vous en passer, là, j'imagine qu'avec votre expérience, vous êtes rendu capable de le flairer, ça. Comment est-ce qu'on s'y prend?
Mais j'ai une suggestion aussi après par rapport à ça.
Souvent, la meilleure façon, c'est de voir c'est que il contredit les expertises ou encore les versions des témoins qu'on a. Il vient nous dire le contraire. Quand les faits sont quand même là. On trouve un individu avec un exemple. Les enquêteurs nous disent il a eu 5 balles dans la tête. Puis ils nous disent non, on veut tirer 4 balles. On sait tout de suite qu'il nous ment. En partant, on n'a pas besoin d'une longue expérience pour savoir ça. Mm-hmm. Et c'est toujours l'attitude et le comportement. Est-ce qu'il collabore? Est-ce qu'il semble honnête? Est-ce qu'on est capable de valider et corroborer ce qu'il va nous dire? La validation par corroboration, après, là, c'est le summum pour être certain qu'on ne s'est pas fait avoir.
C'est au-delà d'écouter ce qu'on entend de la part du suspect, ouais. Quelle est la proportion qui va être du non-verbal? Passez-vous beaucoup de temps on a déjà fait une entrevue ici avec une synergologue qui étudie beaucoup le non-verbal. Avez-vous étudié ça beaucoup? Est-ce que vous le savez tout de suite quand quelqu'un commence à être nerveux?
Quelqu'un qui se taponne l'oreille, lui, il est ça? En train de vous mentir.
Ouais, non. Savez-vous que, je ne veux pas être méchant, là, mais il n'y a aucune étude qui vient supporter ça, hein, le non-verbal. Okay.
Ah oui?
Ça n'existe pas. Il n'y a aucune étude scientifique qui vient supporter ça.
Je suis content que vous dites ça parce que moi, des fois, on dit d'avoir les bras croisés, c'est un signe de fermeture, mais moi, je suis juste bien de même.
Oui.
Exactement. J'ai un collègue avec qui j'enseignais puis qu'il me disait la même chose. Il dit, moi, genre, j'ai une bonne bédaine puis je suis bien avec les bras croisés sur ma bédaine.
C'est bien pareil. Pour ça.
Je vous connais pas, M. Blin. Je parle de mon collègue que je connaissais. Lui, je savais qu'il avait une bonne bédaine. Il était à l'aise avec les bras croisés. Fait qu'il faut pas porter de jugement. C'est comme un synergologue qui disait quand il la jambe croisée puis le pied qui pointe vers la porte, c'est qu'il veut s'en aller. Voyons, c'est du ridicule.
Okay.
Faut pas porter... Non, il n'y a aucune étude qui vient supporter ça.
D'accord.
Absolument. Pendant un interrogatoire, là, parce que le cinéma nous a montré que celui qui pose les questions s'attend à avoir un petit bout de réponse, puis en échange d'un petit bout de réponse, des fois, l'interrogé se mérite une cigarette. Ça se passe-tu comme ça?
Non, ça se passe pas comme ça. On fume pas dans les salles d'interrogatoire, on n'interroge pas avec une arme ou des menottes. Non.
Est-ce que ça a déjà fumé, par exemple?
Ah oui. Les périodes des années 80, 70, 80, 90, là, ça fumait. Et puis, maintenant, on étouffait là-dedans. Là, fait que non.
Okay.
Et pour un non-fumeur, que je suis, c'était l'enfer.
Ah, j'imagine. L'enfer. Y a-t-il des types de criminels? Parce que, tu sais, j'ai lu sur vous, puis j'ai vu que vous avez interrogé toutes sortes de criminels, autant des violeurs que des tueurs, que des voleurs. Ouais. Y a-t-il des criminels qui sont plus particuliers, dont vous vous souvenez? Je sais pas, moi, des agresseurs, sais-tu? Est-ce que ça a une particularité? Y a-t-il un type de crime qui relie leur comportement?
Là, oui, moi, je dirais que l'antisocial, celui qui respecte aucune règle et qu'il se permet à peu près tout, là, puis que, on dirait qu'il n'y a aucune émotion, puis aucun regret qu'il ressent d'avoir fait ce qu'il a fait. Ces personnes-là sont très difficiles à aller chercher. Si on n'a pas des faits spécifiques qui vont le rattacher au crime, ils vont être difficiles à aller chercher. Parce qu'ils n'ont pas... Comme je vous disais, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de réaction. Ils ne se sentent pas responsables de rien. C'est comme, ils ont assouvi un besoin, puis pour eux autres, le besoin était plus primordial que savoir qu'ils ont fait du tort ou du mal à quelqu'un. Ceux-là, c'est les plus difficiles.
Y a-t-il des noms connus qui vous ont marqué?
Oui, il y a des noms. Il y a des noms connus qui m'ont marqué. Un tueur en série dans le Nord, M. Archambou, il est en prison. Là, c'est un gars qui m'avait marqué. Il a tué plusieurs femmes. Il a été condamné, je pense, pour 3 ou 5, là, je me rappelle plus au juste. Hein.
Okay.
Mais c'est des noms qui m'ont marqué.
Par leur crime ou par leur ou par la façon que s'est passé l'interrogatoire?
Non, par la façon dont l'interrogatoire s'est passé. Et puis le fait qu'il était complètement, justement, c'était un qui était détaché des sévices qu'il avait fait subir à ses victimes parce qu'il est torturé avant de les tuer, c'est épouvantable. C'est des cas assez... On se les rappelle, ceux-là.
Puis je comprends que vous rentrez, puis je vous crois là, que vous êtes dans une optique de « je ne juge pas », mais le gars, il est détaché du fait qu'il a torturé puis tué des femmes. Ça, en temps de vous, ça devait bouillir. Comment vous maîtrisez ça?
Oh, c'est certain. Premièrement, on essaie de contrôler nos émotions, puis on se rattache à nos valeurs de base. Hein. Les valeurs de base, c'est d'être bien connecté avec ses proches, sa famille, ses amis. Puis nos collègues, on échange avec eux autres, on partage. C'est la bonne façon. Aujourd'hui, c'est facile. Là. On est service de support psychologique quand on a besoin. Dans mon temps, ça n'existait pas. Dans mon temps, on prenait une grosse bière pour en parler entre copains, en partenaire, puis ça faisait le job. Mais il faut se détacher de ça puis s'enlever. Ces noms-là, puis le côté horrible de ce qu'ils ont pu faire, laisser ça de côté.
Je suis vraiment curieux de vous entendre par rapport à un nom qui est extrêmement connu dans l'histoire judiciaire du Québec, celui de Michel Dumont.
Oui, je l'ai rencontré, oui.
Vous l'avez interrogé, lui, hein?
Oui.
Comment ça s'est passé? Parce que j'ai lu que cet interrogatoire-là était particulièrement humain avec lui. Parce que, en gros, là, pour raconter aux gens, là, Michel Dumont a été accusé à tort de viol, c'est bien ça?
Oui.
Puis vous avez démontré une ouverture. Puis vous lui avez. Est-ce que je me trompe ou vous lui avez dit que vous croyez qu'il était accusé à tort?
Oui, exactement ça aussi. Puis c'est ce qui a été reconnu plus tard parce que la victime s'est rétractée. Elle-même est venue dire que c'était pas lui qui avait posé le geste.
Ouais.
Et puis, je sais que la ville qui avait fait enquête, les policiers qui avaient fait enquête, il avait le vrai arrangement de M. Dumont, là, qui est confidentiel. Mais puis, moi, j'ai travaillé pour l'avocat de M. Dumont, qui m'a demandé de rencontrer M. Dumont. J'ai eu cette opportunité-là. Fait que, c'est assez... Le pauvre gars, il a fait de la prison pour rien. Là.
Ah oui?
Oui, puis il l'a pris dur, puis ça a coûté un divorce. Ça a changé sa vie du tout au tout. Là. C'est...
Ben parce que dans une fausse accusation là-dedans, tu restes quand même avec l'accusation, qu'elle soit vraie ou pas, les gens associent l'étiquette à la personne.
Mm-hmm. Ah oui, puis tout le monde va rester avec certains doutes à son égard. C'est trop vrai.
Ah, puis ça a brassé pour M. Dumont, hein, parce que moi, j'ai le souvenir très clair, justement, à l'époque où j'étais recherchiste dans l'émission du matin ici, on avait eu en entrevue celle qui l'avait accusé. Puis au moment de la sortie du film, l'affaire Dumont, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, M. Landry, oui. Puis la dame a comme changé une autre fois sa version. Ça a été une histoire spéciale, on va le dire de même.
Ah oui, c'était rock'n'roll. Elle a changé sa version et puis... Pour monsieur, il a traîné ça pendant des années à se battre pour avoir la vérité et être reconnu comme le fait qu'il n'a pas été. Il n'était pas l'agresseur. C'était pas lui qui avait agressé cette dame-là, absolument.
Je vais poser une question controversée parce que quand on parle d'interrogatoire, on parle aussi de tests de polygraphe. Est-ce qu'on peut soumettre des victimes ou proposer à une victime de passer un test de polygraphe pour sa déclaration?
Oui, on pourrait le proposer, mais n'oubliez pas que test polygraphe, c'est sur base volontaire. Fait que elle a juste à dire qu'elle ne veut pas le poser, puis c'est fini, on ne peut pas rien y faire.
Puis on reste avec des fausses accusations, mettons, si c'était le cas.
En plein ça.
Fait que c'est sur base volontaire, donc un test du polygraphe en cours, ça n'a aucune valeur?
Non, au niveau criminel, ça n'a aucune valeur. Au niveau civil, c'est au juge d'apprécier sa valeur probante. Mais n'oubliez pas une chose, qu'après l'examen polygraphique, l'individu, si disons que le résultat démontrerait qu'il est impliqué dans telle chose, il va être interrogé. Puis s'il y a un bon interrogateur, il y a une nouvelle version, la nouvelle version peut être admissible.
Okay.
C'est là que ça se joue. C'est ça qui est important. Et important, c'est bien beau avoir un polygraphe, un polygraphiste, mais avant tout, pour qu'il soit un excellent interrogateur. S'il n'est pas, il demeure, moi, à mon niveau, il demeure un technicien, c'est tout. Il est capable de faire fonctionner un polygraphe, mais... Il n'est pas bon pour interroger, ça va bien.
Justement, comment ça fonctionne, ça, un polygraphe en tant que tel? Parce qu'on a toute l'image de la petite aiguille qui fait des lignes, là, mais en tant que tel, comment ça marche?
Ah, aujourd'hui, tout est informatisé. C'est un programme informatisé, c'est sur ordinateur. Il y a 5 composants. On enregistre des réactions psychophysiologiques, c'est au niveau physiologique. C'est qu'on réagit avec des... Quand quelqu'un ment, ça déclenche un système au niveau des glandes surrénales qui sont sur nos reins. Ça envoie de l'adrénaline au cœur, la pression du cœur change, le volume sanguin change, la sudation change. On a 5 composantes qu'on enregistre ces changements au niveau physiologique. Et on analyse les graphiques, puis c'est là qu'on sait si oui ou non la personne dit de la vérité ou pas. Il y a différents types de questions. On a des questions neutres à l'intérieur du test, calibré pour savoir justement comment il réagit quand il n'y a rien d'important, comme sommes-nous aujourd'hui mercredi, on est capable d'évaluer quelle est sa norme de réaction quand il est arrivé.
Comment distinguer les symptômes de mensonge versus de l'anxiété, tu sais, boost d'adrénaline, sueur froide? Moi, je fais juste penser à être assis sur la chaise pour le polygraphe, là, puis d'avoir plein de pensées intrusives d'un coup qui pense que je suis coupable.
Ah oui, juste d'être suspecté, c'est quand même stressant.
Je pense à côté d'une voiture de patrouille, j'ai l'impression qu'ils vont m'arrêter. Imaginez être face à ça.
Oui, mais imaginez-vous si, en plus, vous êtes impliqué dans le crime, comment est-ce que vous allez être?
Oui, je comprends. Il y a le stress normal, puis il y a le stress, j'ai tué quelqu'un, je comprends.
Exactement. Le stress que j'ai tué quelqu'un ou j'ai abusé sexuellement de quelqu'un, quand vous êtes dans le geste, on vous pose cette question-là. Avoir agressé sexuellement Mme Intel, je dis, puis là, la personne dit non, mais dans le fond, il l'a fait. Imaginez-vous que les réactions sont grandement amplifiées.
Curiosité comme ça, votre tueur en série là, qui n'avait tué une couple dans le Nord, justement, est-ce qu'il avait passé un polygraphe?
Lui, non. On n'a pas eu besoin.
Est-ce que quelqu'un qui est, selon vous, quelqu'un qui est détaché de même à ce point-là, est-ce qu'il est capable de fausser les résultats d'un polygraphe?
Non. À moins que pas le graphiste soit endormi, à part de ça, non.
OK.
Le plus bel exemple de ça, vous rappelez sûrement un soir des années 70 aux États-Unis, le Ted Bundy, oui. Qui avait tué, oui. Je sais pas comment de femme. Ben, lui, il avait pris une entente avec le corps de police de Floride que une information qui était pour donner où étaient les corps des victimes qui cherchaient en Floride. S'il donnait un endroit exact qu'il n'avait pas tué, puis qu'il disait qu'il n'avait pas tué, il ne serait pas passé à la chaise électrique. Puis c'est un de mes professeurs qui a passé le test, Dr. Raskin, et puis il s'est essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que deux jours après, ben, il a passé à la chaise électrique. Puis lui, c'était un vrai psychopathe.
Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous, parce que visiblement, tu sais, quelqu'un qui maîtrise l'art justement de l'interrogatoire et qui est un vrai bon polygraphiste, est-ce que selon vous, ça devrait pouvoir être pris comme preuve?
Il y a certains pays qui le font. Il y a certains États américains qui le font.
OK.
Moi, je suis pas pour ça. Bizarrement.
Oui, comment ça?
À cause qu'il y a un risque d'erreur. Je vais te donner un exemple. Il y a des médicaments aujourd'hui qui jouent sur le système nerveux involontaire. Ouais. C'est ça qu'on analyse. Ouais. Mais si la personne a pris ces médicaments-là par une cache, moi, je ne peux pas lui demander de passer une prise de sang ou une prise d'urine avant de passer au polygraphe. Fait qu'on va toujours rester avec une zone d'ombre là-dedans, tu sais.
Ouais, je comprends.
Fait qu'à ce moment-là, j'aurais peur de faire une erreur puis que ça soit pris en considération. Moi, les pays ou les États où c'est pris en considération, je suis loin d'être pour ça. Okay. Moi, je suis bien plus pour un bon interrogatoire, une bonne version. On est capable de valider et aller chercher des éléments de corroboration. Ça, c'est valable. Ça fonctionne. Avec ça, on est sûr. On va en cours, on n'est pas gêné.
Okay.
On n'est pas gêné.
J'ai vu que vous travaillez également au privé, polygraphie.ca, ouais. Jacques Landry. L'aspect légal de ça, c'est, j'en doute pas que c'est absolument légal, là, mais y a-tu, ouais, des limites à ne pas franchir, justement, parce que, tu sais, c'est comme un peu sous le tu sais, ça a l'air quasiment d'un appareil de justice. Comment ça fonctionne?
Ben, ça fonctionne pareil comme quand j'étais policier. Moi, si je suis engagé par une firme d'avocat ou par une compagnie d'assurance ou autre, moi, si vous validez si la version de la personne est véridique ou pas, et si le résultat démontre qu'il ment, je vais tenter d'avoir une nouvelle version, la vérité, et puis je soumets cette version-là à l'assureur qui, plus tard, ben, prend une décision. Si oui ou non, ben, il va payer son client ou il ne paiera pas, ces choses-là. C'est pareil comme si, encore une fois, j'étais policier, mais là, c'est mes clients, mais ça vient de peu partout. C'est des firmes d'assurance, surtout des bureaux d'avocats, des grands bureaux, des banques, des caisses, ça peut être n'importe qui.
Qui sont vos clients, OK.
Vous l'avez découvert comment, cette passion-là, pour le système de justice, pour le milieu policier?
Je sais pas si vous avez lu le livre que Mme Gagnon de la presse a écrit sur moi, là, dernièrement. Mais très jeune, j'étais jeune policier dans la région de Hull, et puis je prenais des plaintes, puis ça me captivait d'avoir la plainte des victimes puis des témoins. Puis je fouillais plus loin, je faisais le tour des voisins. Puis à force de faire le tour, j'obtenais beaucoup d'informations. Puis là, ça intriguait les enquêteurs. Ils me disaient, où est-ce qu'il a pris ça, où est-ce qu'il a pris ça? C'est simple, j'ai fait le tour des voisins. Et j'avais une facilité d'entrer en contact avec les personnes. Fait que j'ai passé mes examens pour devenir enquêteur. J'ai passé ça. Et puis après, j'ai suivi plein de cours que, justement, mon département payait. Et c'est eux autres qui sont venus me chercher pour dire, ben, super bon résultat au niveau des enquêtes générales. Viendrais-tu au crime contre la personne de Montréal? J'ai dit oui. Après ça, ils sont venus me chercher pour la polygraphie. J'ai encore dit oui. Fait que j'ai suivi à peu près tous les cours qui existent au niveau de la communication en psychologie ou autre. Fait que c'était un domaine qui m'a captivé jusqu'à la fin de ma carrière. Puis j'ai continué après. Puis j'ai enseigné. J'ai mis sur pied cette formation-là avec le plan qui porte mon nom, le plan Landry. Là, comment se préparer pour faire des bons interrogatoires de A à Z. Et ça a donné du résultat depuis qu'on a mis ça en pratique. On a fait un sondage 4 ans après 96, avec 2000-2001, et puis on a augmenté notre taux d'efficacité d'à peu près 20%. C'était exceptionnel.
Je disais que...
Il veut l'enseigner dans je ne sais pas comment de pays maintenant, là, parce qu'il a formé des multiplicateurs, parce que c'est rendu en Europe, c'est rendu en Afrique, c'est rendu partout, cette méthode-là.
Wow.
Et ça donne des bons résultats.
Je disais que votre approche est beaucoup axée justement sur la bienveillance,
ouais.
L'acceptation et le non-jugement. C'est-tu une démonstration justement que dans le bon cop, bad cop, ben le bad cop qui marche à la pression puis à la menace, ça marche pas?
Ça marche pas pantoute, puis j'ai jamais utilisé ça de ma vie. On voit ça dans les films, mais oubliez ça. Moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas connu ça, puis ça sert à rien. Moi, ce qui sert à quoi, c'est l'écoute puis l'empathie avec la personne que tu vas rencontrer puis le respect. C'est comme ça que ça fonctionne, puis ça fonctionne très bien. L'être humain veut être écouté. Hein. Mm. Ben, le pire criminel, il veut être écouté.
C'est vrai qu'il y a des criminels qui ont gardé contact avec vous, même malgré le fait que vous lui avez fait cracher les verres du nez puis que c'est ça qui les a emmenés en prison?
Oui, j'ai reçu pendant je sais pas combien d'années des cartes lors des fêtes de Noël, des cartes de Noël. J'ai reçu des lettres de remerciement. J'ai reçu des lettres pour me dire qu'il aimerait que j'aille témoigner devant les agents de probation.
Des libérations fonctionnelles,
hein? Oui, okay. quand j'avais le temps, j'y allais. Oui, les personnes ont resté en contact. Et c'est un respect qui se crée, hein? C'est un respect mutuel. C'est vraiment, quand on sort de là, d'une entrevue, d'un bon interrogatoire, le lien créé est exceptionnel. Ouais,
drôle de question, mais est-ce qu'il y a des gens qui, par simple reconnaissance, ils vous ont dit carrément que vous les avez délivrés d'un poids?
Oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Okay. Ça m'a fait du bien de vous parler, puis il y en a un qui me dit, il dit, en arrivant, il dit, quand vous avez vu, il dit, avec vous, j'ai eu un lien de confiance immédiat. Il dit la même chose pour moi.
Il semble que vous ne jugez pas.
Non, en plein ça.
Est-ce que vous avez le droit, puis là, c'est une question qui est très cinématographique, là, mais est-ce que vous leur avez le droit de leur faire des promesses? Je vous donne un exemple. Là, j'écoutais un film en fin de semaine, l'opération finale sur l'arrestation d'un nazi notoire, puis le nazi demandait avant son extradition en Israël qu'un coup rendu en Israël, il puisse voir sa femme. Ce genre de promesse-là, est-ce que vous avez le droit d'en faire?
À la négociateur, un peu. En
fait. Ouais.
Non, durant un interrogatoire, on ne peut pas promettre rien, parce que toute promesse, menace, va être prise et va discréditer la version qu'il va pouvoir nous donner.
Ah, ça va venir manipuler le témoignage.
Okay. C'est ça. Okay. Mais il y a des choses, il y a des banalités qui peuvent être discutées. Je me rappelle un individu qui m'avait demandé, il dit, tu crois-tu que quand on va avoir fini de se parler, puis avant de comparaître à la course pour aller me faire couper les cheveux, parce qu'il dit, ça, ben, il dit, écoute, ben, on a un salon de barbier en bas, il n'y a pas de trouble. Ça, c'est une affaire qui est faisable. Mais j'ai pas promis que c'est moi qui payais et qu'il m'occupait de ses coupes de.
Je comprends. Okay. Il n'avait pas fait un dégradé, je comprends.
C'est pas votre enfant, là, c'est ça.
Okay. C'est pas moi qui ai fait sa coupe de cheveux, oubliez ça.
Je comprends ça. Mais, monsieur Landry, vous êtes un homme attachant, tellement intéressant. J'ai pas de misère à comprendre pourquoi quelqu'un, en la personne justement de Katia Gagnon, a eu l'idée de faire un livre qui s'intitule « Détecteur de mensonges, la vie fascinante de Jacques Landry, virtuose de l'interrogatoire ». Mais comment c'est arrivé cette proposition-là? Comment Katia Gagnon vous a approché pour... Puis, vous êtes dans le milieu policier, à l'extérieur des caméras puis des projecteurs. Comment elle vous a présenté ça, ce projet-là?
C'est à travers un autre ami qui est réalisateur à Montréal, François Mété, que je connaissais, qui avait entendu la conférence, la réunion que j'avais eue avec M. Dutrisac. J'avais donné une petite entrevue.
Okay.
Il m'avait rencontré, puis il voulait faire un projet avec moi. Et là, il m'a présenté à Katia, on est allé dîner, puis elle m'a demandé ça, puis moi... Ça, j'ai eu un déclic avec Katia, puis j'ai dit, moi, objectivement, ça m'intéressait. C'est un peu comme, vous savez, à partir d'années au temps d'interrogatoire, c'est un peu pour dire un peu à ma famille, à mon fils que j'ai élevé, mais aussi à mes petits-enfants, que qui j'étais un peu, ils vont le comprendre un peu mieux avec ce livre-là, parce que J'ai travaillé beaucoup, j'ai délaissé un peu la famille pour le travail. Je voulais qu'ils comprennent qui j'étais et d'où je venais, là. Comment ça s'est passé.
Quand vous étiez présent, justement, là, auprès de vos enfants, votre famille, est-ce qu'il y avait une déformation professionnelle? T'sais, les enfants ne devaient pas tant être en mesure de vous en passer. Là, vu que vous...
Non, non. j'ai eu juste un fils et il était sportif. Ça a très bien été.
Okay.
Un très bon gars, puis bien content de lui. Très
ça reste les sacrifices, j'imagine, des fois des nuits d'interrogatoire.
Des nuits, des fins de semaine, parce que j'ai toujours dit à la blague, là, bizarrement, les meurtres, là, ça arrive pas de jour. Hein. J'ai toujours été appelé de soir ou de nuit, puis des fins de semaine. Okay. Bon, regardez ça, là, les meurtres, t'as vraiment parlé ça, tout.
Ouais, c'est
ça arrive tout le soir et de nuit. Fait que le bellboy, dans le temps, ben, puis le téléphone cellulaire, ça a toujours sonné de nuit. Fait que t'es toujours parti, hein? T'es toujours dehors, t'es toujours à l'extérieur. Puis il y a des enquêtes qui sont longues. Dans le temps que j'étais au crime contre la personne, j'ai eu une enquête, j'ai mis 2 ans et demi dessus, là. Fait que c'est... Oui, non, c'est pas si simple que ça, là.
Un interrogatoire standard, ça va durer combien de temps?
Minimum pour moi, là. Minimum, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Minimum.
OK. Puis la plus longue que vous avez faite?
Ah, j'ai fait pas loin d'un 24 heures avec certaines personnes.
Ah oui. Ouais. Puis ça fait-tu partie de la technique, ça, de l'étirer un point tel?
Non, c'est pas de l'étirer, c'est qu'il y avait tellement... La personne était tellement volubile, puis il y avait tellement de choses à expliquer, justement pour démontrer que la cause de la mort de son conjoint est explicable, que c'était un accident, que c'était pas un meurtre prémédité. À ce moment-là, ben c'est assez long, hein. Faut tout repartir ça à zéro, puis aller à la source où ça a commencé. Fait que c'est long. Vous savez, des fois, des problèmes dans un couple, ça peut commencer des mois avant qu'un incident se passe. Même des années, on ne sait pas.
Pour remonter le plus loin possible.
Oui, en plein ça, comme je vous disais, il faut aller chercher les éléments pour valider et corroborer.
Parce que je suis vraiment curieuse de mettre la main sur votre livre.
Ah,
je vous connaissais pas. C'est une belle découverte pour moi ce soir. C'est un milieu qui me passionne. Puis bon. C'est clair que je me fais le devoir là, de me procurer ce livre-là.
Absolument.
Puis de
Détecteur de mensonges, la vie fascinante de Jacques Landry. Virtuose de l'interrogatoire, c'est les éditions de la presse qui ont sorti ce livre-là. Il est trouvable dans n'importe quelle bonne librairie. Un gros merci, M. Landry, pour l'entrevue ce soir.
Bienvenue, puis vous appelez, si vous voulez appliquer là, pour devenir enquêteur, il y a trop de la place des personnes motivées.
Je vais laisser Camille, moi je pense qu'ils vont me flaguer avant. Hey, merci,
bonne
M. Landry.
Bye-bye,
bonne soirée. C'était Jacques Landry, spécialiste de l'interrogatoire et polygraphiste également. Je savais que le polygraphe, c'était comme un peu controversé. Il y a des places qui l'appliquent, d'autres... Puis on a toute l'image du gars plugué avec des fils partout, là, puis que l'aiguille fait une crise d'épilepsie, là, puis... Ah là, vous me vantez, connard! Vous me mentez!
Avec la petite lumière, non, pas noir, mais rouge...
Parce que c'est tellement utilisé au cinéma, là, tu sais, le genre de... C'est moi qui pose les questions! Tu sais, ce genre de phrase-là, j'ai pas osé demander, là, parce que...
J'aimerais bien avoir une clope.
Ah ouais, je prendrais une clope. Ça, là, j'ai osé demander, parce que c'est classique, là, le gars qui fait comme... Je pourrais avoir une clope, puis là, le gars, il fume sa clope, c'est comme le sérum de vérité, là.
Oui!
C'est assez classique.
Bah, parle à quoi,
en parlant.
On appelle ça se mettre à ses aises, faire comme chez soi.
Ouais, exact. Puis j'ai pas osé, parce que là, on a compris que la violence, c'était pas tant son dada, là, mais le coup de poing à travers un bottin téléphonique, là. T'as-tu déjà vu ça?
Non, moi, j'ai déjà vu des téléphones, là, se faire sacrer à terre, là. C'est le téléphone qui fait communiquer vers l'autre bord de la ville. Ouais, non, mais pas le
bottin,
non.
Tu prends un bottin téléphonique, tu la cotes une face, puis tu donnes un coup de poing dans le bottin. Fait que tu vas ressentir l'impact du coup de poing, mais tu laisseras pas de marque.
Ah.
Moi, mes chums, on l'a essayé, puis ça marche vraiment.
Ah oui?
Ah oh, ouais.
T'essayes aussi d'affaire louche.
Oui, vraiment. Ben, Val-Bélair, la Blue Ribbon, tout le capatant.
Ben, ça veut dire que tu peux pas te faire incriminer, c'est le bottin qui a frappé l'autre.
Voilà.
Avec le bottin.
Exact.
Ah, OK.
Voilà. Si vous êtes joint en cours d'entretien, ça va être disponible au www.radiox.com. Petite pause, puis on se dit bye-bye de l'autre côté de la pause. Le space.